Radio Okapi.
Voici les titres de ce journal de midi sur Radio Okapi. Attaque hier contre la position de la MONUSCO à 5 au nord Kivu par le M23 appuyé par l'armée rwandaise ayant blessé 8 casques bleus. Le secrétaire général des Nations Unies condamne cet incident et rappelle que les attaques visant les soldats onusiens peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Plus de 35 malades de la variole des singes sont morts depuis le début de cette année dans la zone de santé de Munyeka, territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur. La population déplore ce qu'elle qualifie d'indifférence des autorités et des humanitaires. L'invité du journal est le responsable du service protestant de développement de la diaconie de l'église du Christ au Congo, SCC. Le pasteur Brian Parrish nous parle des résultats de son enquête menée depuis près de 2 ans auprès des personnes affectées par les conflits Tekeyaka dans le Maïndombe, au Kwango, Kwilu et ici à Kinshasa. Grâce, Amzati Masanzi est à la présentation et Jean-Noël Mokondo-Yogo assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour. Les attaques visant les casquets bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. C'est en ces termes que le secrétaire général des Nations Unies condamne l'incident de ce samedi et a blessé 8 casquets bleus de la MONUSCO à Sake, cité située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. C'était lors des affrontements entre les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise et les FRDC. Les détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Antonio Guterres condamne cette attaque qui a fait des blessés dans les rangs des casquets bleus. Des casquets bleus qui, d'après les communiqués du secrétaire général de l'ONU, étaient déployés dans le cadre de l'opération Springbok, lancée en novembre dernier pour protéger les civils dans la région. De ce fait, le secrétaire général réitère son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers de déposer les armes immédiatement et d'entreprendre sans délai les processus de désarmement. Il demande également au M23 de se retirer complètement de toutes les zones occupées et de respecter les décisions énoncées dans le communiqué de Luanda daté du 23 novembre 2022. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être pleinement respectées. Par ailleurs, tout en souhaitant un propre rétablissement aux casquets bleus blessés lors de l'attaque, le secrétaire général réaffirme la détermination de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils. Rappelons que toujours hier dans la soirée, dans un communiqué rendu public, la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, avait fait savoir que la MONUSCO est disposée à soutenir toute enquête destinée à déterminer les responsabilités devant les juridictions nationales ou internationales.
Jacques-Yves Molima Aouta. Situation relativement calme mais imprévisible ce dimanche matin à Sake, à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma, toujours au nord Kivu. Ce après la journée agitée d'hier où plusieurs sources ont rapporté des tirs à l'arme lourde et légère autour de cette cité du territoire des Masisi. Selon ces sources, il s'agit bien des combats opposant les Wazalendo locaux appuyés par les FARDC face aux rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Les rebelles assaillants auraient été éloignés de Sake, mais pas très loin, avertissent ces sources. Seul bilan, pour le moment, c'est celui fourni par la MONUSCO faisant état des 8 casques bleus blessés par les tirs des rebelles. Et à Ituri, les femmes humanitaires des agences du système des Nations Unies se disent préoccupées par la situation des vulnérabilités que traversent les femmes paysannes affectées par des conflits armés dans cette province. Elles ont fait savoir samedi au cours d'une mini-foire qu'elles ont organisée à Bunia dans le cadre du mois de mars dédié à la promotion des droits de la femme. Elles déplorent la persistance des conflits armés qui, disent-elles, empêchent de nombreuses femmes d'effectuer les travaux champêtres et contribuer à l'amélioration de la situation économique de leur ménage. Le point avec Ezekiel Mzali.
Ces femmes, toutes des noires vêtues et certaines auréolées des bandeaux blancs sur la tête, ont commémoré le mois de mars, d'abord par une marche de santé qui est partie de l'aéroport de Morongo jusqu'à l'école primaire officielle Epovila Bunia. Elles disent joindre leur voix à celles qui protestent les tueries des civils à l'est du pays, et plus particulièrement en Ituri, où plusieurs femmes sont victimes des guerres. Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en matière de genre.
Ituri, c'est une province qui ne devait même pas vivre de l'aide humanitaire. On peut tout produire, on ne peut même pas dépenser.
dépendre des gens. Tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes, nous sommes en même temps des victimes et en même temps de nous qui créons la situation. Prenons conscience, arrêtons cette histoire.
Ensuite, ils ont organisé une conférence débat où le travail ainsi que le produit des champs de la femme paysanne a été au centre des débats. Une façon pour la coordonnatrice de cette structure, Sandra Mbaya, d'encourager les femmes dans leurs activités.
Il y a des stands qui démontrent le travail que les femmes font. Il y en a qui ont suivi différentes formations. La particularité, c'est que nous voulons montrer le travail de la femme en Ituri et leur engagement.
Notons qu'au moins 100 femmes ont pris part à cette activité qui avait pour but de soutenir et encourager les femmes qui exercent le petit commerce. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Par ailleurs, plusieurs défis restent à relever pour permettre l'émergence économique des femmes et surtout des femmes rurales. C'est ce que les femmes ont fait savoir jeudi à Beni lors d'une conférence organisée par les femmes des médias de la ville. Malgré l'insécurité dans la région qui ne leur permet pas de s'autonomiser, cependant, grâce à leur résilience, les femmes de cette partie du territoire congolais survivent à travers des petites activités génératrices des revenus. Guylaine Kassassia.
Parmi les grands facteurs qui freinent l'émergence économique des femmes rurales figure l'insécurité persistante dans la région de Beni, les normes sociales, mais également le manque de confiance entre femmes. C'est ce qu'a fait remarquer Julie Londo de l'Association des femmes de médias pour la paix et le développement de Beni. Thérèse Kitemoko vend des épices depuis environ 20 ans à Beni. Elle encourage les femmes à travailler dur malgré l'insécurité. Nos capitaux ont baissé à cause de la sécurité parce que nous n'avons plus accès aux endroits où on peut abondamment trouver de la marchandise. Malgré la sécurité qui nous encombre, nous devons prendre du courage. Aujourd'hui, si vous voyez les cadres de ces pays, leurs mamans faisaient du commerce pour subvenir à leurs besoins. L'amour de ce travail, peu importe sa nature, et le respect du travail de l'autre peuvent également aider à l'émergence des femmes. C'est ce que pense pour sa part Ingrid Katungu, chargée du genre au sein du COFEDIP, collectif de femmes pour le développement intégral et la consolidation de la paix.
Pour que la femme aille de l'avant, il faudrait d'abord qu'elle puisse aimer le petit métier qu'elle est en train d'entreprendre. C'est la négligence qui laisse à ce que la femme puisse rester en arrière. Il ne faut pas négliger même de petits métiers. Chaque femme doit respecter le travail de l'autre.
Les femmes ont finalement compris que l'on peut commencer une vie à partir de rien. Il suffit d'avoir du courage et un objectif bien fixe. Beni Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Comme annoncé au sommaire, dans la province de l'Équateur, la variole des singes ou monkeypox continue de faire rage dans le territoire de Bulumba, précisément dans le secteur de Lusanganya. Déjà plus de 35 malades ont trouvé la mort depuis le début de l'année dans la zone de santé de Monyeka. La population qui redoute le pire déplore l'indifférence des autorités et des humanitaires. Le récit de Paul-Richard Malengela, rendu ici par Jacques-Yves Molima.
Plusieurs villageois arrivés à Mbandaka témoignent le fait. Ils affirmaient que les signes du monkeypox sont apparus dans le territoire de Bulumba il y a plus d'une année. Mais le groupement Bokala dans le secteur de Lusanganya est parmi les aires les plus touchées par la maladie dans la zone de santé de Monyeka. L'ONU dénombre plus de 35 décès survenus au sein de la communauté depuis janvier 2024, ont-ils dit. Le dernier cas signalé est celui d'un pasteur de l'église Patmos, décédé mardi dernier au village Bossisela, considéré comme l'épicentre actuel de l'épidémie. Le corps en état de putréfaction très avancé a été inhumé le même jour. Mais le lendemain, le père du défunt a également succombé à la maladie, alors que les trois enfants du défunt pasteur sont également admis dans un centre de santé. Ils sont dans un état critique, ont indiqué les témoins joints ce week-end par Foni. La situation reste alors grave et la population s'est dite abandonnée à son triste sort. L'infirmier du village, à environ 3 km de Bossisela, s'est dit dépassé à cause du nombre élevé des malades et surtout du manque de médicaments en vue de la prise en charge des signes cliniques des malades. Notons enfin que le monkeypox se transmet notamment au contact de flux liquides du patient. La maladie se propage ainsi dans cette contrée, faute de sensibilisation et d'application des mesures d'hygiène, selon nos sources.
Direction la province du Kwango. Au moins 4 candidatures, dont une féminine, sont déposées à la CENI pour les élections de gouverneur en avril prochain. Il s'agit de Willy Bituisila, Colette Lukamata, Modeste Mulasa et Pachopanda. Ces élections suscitent beaucoup d'espoir pour les habitants de cette province. Le cadre des concertations provinciales de la société civile dit attendre un gouverneur qui va placer la province sur le train du développement. Dans une déclaration faite jeudi, cette structure a présenté aux députés provinciaux une liste des critères d'un bon gouverneur. Un extrait de cette déclaration lu par Symphorien Kwengo, vice-président de cette structure, est proposé par Irène Mbomaluzolo.
Honorables députés provinciaux, c'est depuis le 15 juin 2015 que le Kwango est devenu province. Près de 10 ans après, la province n'a toujours pas décollé et par ricochet, la situation socio-économique de notre population reste très précaire. Le regard de tous les Congolais sont fixés sur vous. Vous avez ainsi la lourde responsabilité d'offrir à notre chère province un gouverneur de province répondant aux critères suivants. Être rassembleur, être compétent, connaître les quatre coins de la province, être capable de rester à l'écoute de la population et faire sa volonté et non être au service de sa famille biologique et politique. Avoir un esprit managérial et créatif. Ce message constitue un cri de détresse pour vous amener à voter pour les meilleurs candidats capables de booster le développement de notre chère province.
Pendant ce temps ici à Kinshasa, le caucus des notables du territoire de Fechi dans la province du Kwango condamne l'attitude de certains acteurs politiques de cette province qui tend à remettre en cause le pacte des rotations des gestions entre territoires mis en place dès la première législature. Dans une conférence de presse tenue ce samedi 16 mars, Fabien Kula, président de ce caucus, appelle la classe politique du Kwango à privilégier la cohésion sociale et la paix pour le développement de cette province. Fabien Kula le dit à Paul Matendo.
Considérant la controverse houleuse à l'approche de l'élection du gouverneur et focalisée essentiellement sur la remise en cause du principe de gouvernance rotative à la tête de notre province, nous, notables du territoire de Fechi à Kinshasa, réunis ce samedi 16 mars 2024, condamnons avec véhémence les velléités de certains acteurs politiques qui s'évertuent à fouler aux pieds le pacte de rotation de gestion entre territoires dont la principale vertu est de préserver la paix sociale, ferment de l'unité de notre province. Exhortons la classe politique congolaise à considérer le retard de développement qu'accuse notre province pour se garder de l'affairisme politique afin de privilégier les atouts de management dynamique. Et exhortons enfin les acteurs politiques congolais à promouvoir la cohésion sociale et la paix, gage de l'unité de notre chère province.
L'actualité, c'est aussi le premier anniversaire, samedi 16 mars, de la loi sur la presse, dite la loi Muyaya, depuis sa promulgation. Au Maniema, les responsables des médias de Kindu et certains journalistes ont organisé une session de réflexion sur la modalité d'application de cette loi. Après débat, les responsables des organes de presse disent attendre l'effectivité de l'octroi d'aide publique aux médias tels que les stipulent les textes. Par ailleurs, ils ont proposé que les différentes taxes auxquelles font face la presse soient payées selon les zones d'attraction commerciale, tout en appelant le ministre des médias, Patrick Muyaya, à honorer sa promesse de rendre salubre le paysage médiatique congolais. Radio Kapikindu, Florence Kizalunga.
La réflexion a tourné autour des conditionnalités d'accéder à cette aide directe ou indirecte de l'État. Brahim Kambumbo, coordonnateur provincial du CESAC, parle de ces conditions.
Il faut d'abord avoir déjà déposé auprès du CESAC son dossier administratif. Il faut avoir manifesté l'intention d'être éligible à l'aide directe. Il faut également être reconnu sur base des données statistiques pour son respect des lois et autres prescrits réglementaires en matière de la presse.
De leur côté, les participants souhaitent voir à la tête du gouvernement, une personnalité qui aura les soucis de la viabilité économique des médias. Roger Ebolinda.
Comme vous le savez, nous avons des très bons textes élaborés par nos législateurs. Mais c'est fait malheureusement. L'applicabilité n'existe pas. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'observer comme les responsables qui sont dans les différents ministères, ils agissent selon leur humeur. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir des ministres responsables, surtout le chef du gouvernement qui doit faire en sorte pour inclure, avec le concours des législateurs bien sûr, les budgets qu'on va allouer à la presse. Ça, c'est très important.
Cet atelier avait pour thème « Premier anniversaire de la loi sur la presse, mis l'attente d'une réforme ambitieuse ». Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Togo, une proposition de loi de révision constitutionnelle est examinée ces jours-ci par la commission des lois. La proposition a été déposée à l'Assemblée nationale par un groupe de députés fin décembre. Le texte est soumis à la commission des lois qui peut encore être amendé avant d'être présenté à l'Assemblée nationale prévoit un changement de régime.
L'invité.
C'est le pasteur Brian Parrish. Il est responsable du service protestant du développement de la diaconie créé par l'Église du Christ au Congo SCC. Brian Parrish nous parle des résultats de son enquête menée depuis près de 2 ans auprès des personnes affectées par les conflits Tekeaka dans le Maïndombe, au Kwango Kwilu et ici à Kinshasa. Brian Parrish s'entretient avec Paul Matendo.
Brian Parrish, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené une évaluation de besoins des populations affectées par les conflits Tekeaka depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain exactement?
C'est-à-dire que depuis presque 2 ans, nous sommes interpellés par des paroisses, par des personnes par rapport à la situation des conflits entre des Yaka et des Teke, entre autres, hein, mais en tout cas, avec énormément de déplacés, ici à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Nous avons travaillé ensemble avec Christian Aid pour essayer de voir de plus près quel était l'impact de ce conflit sur la population. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment que la situation à l'Est, qui est épouvantable, éclipse en quelque part les autres problèmes qui sont aussi tout proches de chez nous. Donc, dans l'enquête, on voyait aussi tous les problèmes graves de santé, situations de malnutrition, des enfants seuls, la violence, bien entendu. Nous voulons travailler d'une façon, on appelle ça dans le jargon, nexus, triple nexus, c'est-à-dire qu'on veut travailler sur la paix, travailler pour aider la population de plus fragiles qui sont le plus frappées dans les déplacés, et aussi travailler sur des moyens de résilience et de développement pour que les personnes qui ont fui puissent retourner chez eux et aussi dans des conditions aussi convenables. C'est-à-dire qu'il y a aussi des écoles, des centres de santé, il y a beaucoup d'endroits qui ont été endommagés avec les conflits. En quelque sorte, on pense que c'est un conflit qui a été un peu oublié et on comprend. Tout le monde se braque sur la situation à l'Est, mais ça c'est un conflit qui doit aussi être résolu. Et c'est un conflit que nous pensons qu'on peut trouver des solutions par le dialogue, mais aussi par les interventions des uns et des autres.
Et quelles sont les motivations qui vous ont conduit à mener cette enquête?
Tout simplement pour moi-même, j'ai rencontré des communautés à Kikwit qui a été déchirées par ce conflit. Et quand je voyais aussi, même tout proche de chez nous, à Massina, des communautés qui accueillent 200, 300 familles, on voyait des conditions des personnes qui sont là, des personnes qui sont déplacées sont des personnes qui ont tout laissé derrière eux. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont plus d'activité économique, qui ont tout laissé, donc pour pouvoir aussi survivre avec leur famille, ont aussi besoin de l'aide, ou besoin aussi des situations pour pouvoir retourner chez eux. Je crois que le souhait de tout le monde, c'est que ça revienne un petit peu comme avant, quand même, vivre en paix.
Maintenant que vous venez de publier les résultats de votre enquête, quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied pour que ces résultats parviennent aux autorités du pays?
Nous avons invité plusieurs ministères, hein, et certains qui sont excusés, mais on est en contact avec eux. On va continuer aussi à faire notre plaidoirie pour essayer de convaincre, convaincre aussi des partenaires de bailleurs, parce que nous on ne peut pas faire ça sans moyens. Donc on sait qu'il y a un gros travail devant nous, un gros travail collectif, hein. Il n'y a pas que nous, hein, mais nous pensons que nous avons le moyen de à la fois convaincre mais aussi de faire des actions concrètes sur le terrain pour améliorer la situation pour nos citoyens.
Vous dites que vous avez rencontré beaucoup de personnes affectées. Quels sont exactement les besoins prioritaires que vous avez pu relever auprès de ces populations?
C'est-à-dire que les besoins en premier lieu pour les familles déplacées et leur demande, c'était le moyen de subsistance. Hein. Ça peut être de plusieurs façons, mais de pouvoir aussi manger correctement pour les familles, tout simplement. Par contre, on voyait aussi que les familles demandaient aussi un soutien pour leur projet économique. Certains essayent de vendre ici à Kinshasa ou ailleurs. Ce n'est pas simple, hein. Pas facile pour les familles aussi de faire face à tous leurs besoins.
Aujourd'hui, c'est la publication des résultats. Dites-nous, quelle est la prochaine étape? Quelles sont les perspectives?
Les perspectives pour nous, c'est de continuer à travailler ensemble. Là, aujourd'hui, on a rencontré aussi de nouveaux partenaires, d'autres personnes qui ont envie de travailler avec nous. Ce qui est important pour nous, vraiment, c'est de trouver une certaine synergie, faire en sorte que ce soit entendu qu'il y a des populations qui souffrent ici, tout proche de chez nous à Kinshasa, et qu'on a besoin de trouver des moyens de les aider.
Brian Parrish, merci beaucoup.
Merci.
Notre invité, le responsable du service protestant de développement de la diaconie de l'ECC, Brian Parrish, était interrogé par Paul Matindo. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Jacques-Yves Moulima. Merci d'avoir été des nôtres et passez un excellent dimanche chez vous, en compagnie des programmes de Radio Okapi. Au revoir.